Ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le dos.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On est all to vous. Go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire ?
Le schéma est presque toujours à peu près le même. Ascension, chute et rédemption de l'artiste. Ça s'appelle un biopic musical. Ils reviennent en force. Ce sont peut-être bien nos nouveaux super-héros. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Des enfances cabossées, des excès, une gloire mal digérée, des vies plus grandes que la nôtre. Bref, une dramaturgie idéale pour un film, une recette, un genre, revitalisé cette année avec l'énorme succès de Bohemian Rhapsody, en attendant une déferlante de biopics dans les mois qui arrivent. Pour explorer ce genre, ce matin, deux spécialistes. Bonjour Olivier Cachin.
Bonjour.
Journaliste musical au Move et auteur entre autres du récent Naissance d'une nation hip-hop. Bonjour Olivier Nuc.
Bonjour.
Guitariste de rock dans un passé lointain, désormais journaliste musique au Figaro et auteur notamment de biographies sur Hendrix, Neil Young ou Bachung. Les sorties cinéma de ce nouveau mercredi entre Greta, Charlotte et Fatima, eh bien moi je vous le dis, c'est parti.
What the lyric?
Ready, Freddy?
Let's do it.
You need to slow down, Fred.
I just need a bit of time.
What if I don't have time?
Bohemian Rhapsody, bon, ça c'est fait. Sur le groupe Queen et son chanteur emblématique Freddie Mercury, la critique a été très très divisée sur ce film, pas le public. Bohemian Rhapsody a explosé les compteurs du box-office, c'est peut-être le biopic d'ailleurs le plus rentable de l'histoire. L'un l'aime beaucoup, c'est vous Olivier Cachin, l'autre oui. Olivier Nuc beaucoup moins. Mais au-delà de vos sentiments, de vos arguments à tous les deux, cette question, comment expliquez-vous le succès planétaire de Bohemian Rhapsody ?
Bah, moi, je crois qu'on peut dire que c'est un film populaire. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas, parce que dans les reproches, il y a eu genre, oui, ça s'est pas passé comme ça, il a pas dit. Mais on s'en fout, en fait. C'est-à-dire, n'importe quel biopic triche avec la réalité. Et en l'occurrence, ce qui est important, c'est l'émotion. Et là, on l'a, cette émotion. Alors, qu'il ait pas déclaré qu'il avait le sida au groupe lors d'une répétition quelques jours avant Live Aid, c'est pas le plus important. L'important, c'est que, malgré ces incisives, factices qui ont gêné certains, Rami Malek emporte l'adhésion parce qu'il est le personnage dès les premières secondes, comme tous les grands acteurs qui incarnent des personnalités, c'est pas à cause du maquillage, c'est à cause de la présence. Il est là, et donc c'est ça qui fait le film.
Moi, en le regardant, j'ai l'impression, je l'ai déjà dit, mais de manger un burger en me disant, c'est mauvais, mais c'est bon aussi. C'est un plaisir immédiat. C'est quoi un bon biopic, Olivier Nuc ?
C'est pas Bohemian Rhapsody.
Non, non mais qu'est-ce que doit contenir un biopic musical pour être bon ?
Moi, je suis d'accord avec Olivier, la véracité historique, ouais, peu importe, ouais. Parce que finalement, c'est pas très intéressant, et ça va être très anecdotique. Mais je pense que Rocketman, par exemple, qui est parti pour bien marcher aussi, je crois, il possède...
Beaucoup moins quand même que Bohemian.
Oui, forcément. Oui.
Sur Elton John. Hein.
Il possède quoi alors ?
Il a quelques-unes de ses qualités. Les scènes musicales sont réussies. Moi, je trouve que bien souvent, dans l'histoire du cinéma en général et du biopic en particulier, le rock et les musiques apparentées ont été traités de manière assez caricaturale. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des gens défoncés qui se réveillent le matin, qui composent une chanson géniale, et puis voilà. Bon, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça. Et je trouve
c'est
que...
un peu ça, Rocketman aussi.
Un peu, mais les scènes de travail, les scènes de... Voilà, quand on le voit chanter des maquettes, là encore dans le film, il chante des chansons qui sont pas de la bonne période, quand il se fait signer en 67, etc., on s'en fiche.
Et
on
c'est contrôlé par lui en plus, c'est contrôlé par Elton John.
Oui, complètement. Alors je trouve que c'est l'avantage sur Bohemian Rhapsody, dans lequel ils font quand même passer Freddie Mercury pour un pauvre type qui n'était rien sans Queen, Alors qu'à mon avis, Queen n'était rien sans Freddie Mercury et n'est rien aujourd'hui sans Freddie Mercury. Je referme ma parenthèse.
L'occasion aussi, Olivier Cachin, de réécouter des super bons morceaux. Oh, bah je parle oui, en général, hein, pas uniquement sur Bohemian Rhapsody.
En l'occurrence, dans Bohemian Rhapsody, c'est chanté par Freddie Mercury et joué par Queen. Dans Rocketman, c'est par contre Taron Egerton qui interprète, qui s'en sort d'ailleurs
très bien.
Très bien. Par contre, le côté Freud pour les nuls, où il parle à lui-même enfant, où il pardonne à sa mère et à son père, ça, franchement, je suis plus
réservé. Il y a un enjeu commercial très fort sur ces biopics musicaux parce qu'il y a deux industries associées, le cinéma et la musique. Donc il y a la volonté de rapporter beaucoup d'argent aussi.
C'est aussi pour ça que celui sur Bowie a du mal à se faire, c'est que faut que tout le monde soit d'accord. Et d'ailleurs celui de Queen a quand même mis 8 ans à se finaliser, hein. On avait parlé de Sacha Baron Cohen, plein d'autres acteurs, plein d'autres réalisateurs qui ont jeté l'éponge. Enfin, ça a été très compliqué. C'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant que ça soit aussi abouti et réussi parce que ça aurait pu être une catastrophe comme souvent des films comme ça qui se traîne sur des années, qui n'arrivent pas à se finaliser. Moi, je trouve que le résultat est spectaculaire.
Tu veux dire aussi des budgets colossaux.
Oui, mais oui. Et puis aussi, la volonté de ne pas décevoir les fans, parfois. Hein. Ça, c'est de la part des producteurs.
Ah bah ça, que ça soit... Enfin, la plupart des films sont, de toute façon, directement ou indirectement, contrôlés par les ayants droit, ou dans le cas de Rocketman, par l'artiste encore vivant. Donc, du coup, c'est vrai que on va forcément imprimer la légende, hein, comme dirait l'homme qui tue à Liberty Valence, obligatoirement.
Biopic, contraction de biographical et pitcher, hein, autant le dire tout de suite, popularisé aux États-Unis dans les années 30, d'abord envisagé comme l'apologie de la réussite individuelle qui consacre même la notion de rêve américain, et dès les années 40, les vedettes du spectacle qui remplacent les inventeurs, les écrivains, et on arrive à votre premier choix, Olivier Cachin. Vous allez nous dire le titre en anglais, je lui dis d'abord en français, c'est La Glorieuse Parade. En anglais, c'est...
Yankee Doodle Dandy.
Voilà.
Magnifique.
De Michael Curtis, l'homme qui a réalisé Casablanca, sur celui donc qui est considéré comme l'un des pionniers de la comédie musicale américaine, George M. Cohan, c'est comme ça qu'on dit ?
Absolument.
Incarné par James Cagney, qu'on a vu dans les films noirs, mais qui là est incroyable, le rôle qui lui a valu le seul Oscar de sa carrière, il chante et il danse. Pourquoi ce choix ?
Parce que alors déjà c'est ce qu'on appelle aux États-Unis triple threat, il chante, il danse et il joue et il est extraordinaire. Alors c'est quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup parce que c'est surtout au théâtre, comédie musicale au théâtre qu'il a fait ses preuves. C'est celui qui a écrit, George M. Cohan, l'hymne des soldats américains de la Première Guerre mondiale, Over There, qui est un truc, moi ça me met les poils du bras au garde à vous, et puis des chansons comme Yankee Doodle Dandy qui donne son titre parce qu'il est né le 4 juillet. Il y a pas plus américain que ça, non, à part la tarte aux pommes. Et puis il y a aussi cette chanson extraordinaire dans le film, il rencontre une fille qui vient pour chanter. Et elle dit, ah là là, excusez-moi, j'ai mis longtemps, mais j'habite à 45 minutes de Broadway. Et là, il est au piano, il fait, only 45 minutes from Broadway, think of the trouble it brings. Et il fait la chanson comme ça parce qu'il a l'idée.
Comme
c'est un
Guibert,
créateur.
Insupportable.
Oui, je n'aurais pas pris ça, mais bon, si vous voulez, Laurent.
C'est une drôle de comparaison.
Oui, mais
c'est un film qui prend aussi des libertés avec la vraie vie de George M. Cohan, mais il y a tellement d'émotions, c'est toute une famille d'artistes. Et James Cagney, quand il dit, c'est de la phrase qu'il répétait tout le film, mon père vous remercie. Ma mère vous remercie, mes frères vous remercient, mes sœurs vous remercient, quand il assiste à la mort de son père, qui est joué par Walter Huston. C'est bouleversant, les chansons sont magnifiques. Et une petite scène à la fin, il y a l'armée américaine qui est en train de défiler. Tout le monde chante Over There, et lui, il assiste à la parade, et il y a un mec à côté qui fait, alors le vieux, on connaît pas les paroles, chantez avec nous, et il chante sa propre chanson, c'est bouleversant,
vous
c'est
irez,
magnifique.
Vous irez dans un magasin, vous dites, je voudrais La Glorieuse Parade de Michael Curtis, paru en DVD chez Warner Bros. On va faire un grand saut dans le temps avec ce film de 2006, Walk the Line de James Mangold. C'est votre choix, Olivier Nux, sur le chanteur country rock Johnny Cash, incarné par Joaquin Phoenix. 30 ans de la vie de Johnny Cash résumé en 2h17 avec beaucoup d'ellipses. Ce film contient en fait des grands ingrédients du mélodrame. Mort du frère, culpabilité, père autoritaire, grande histoire d'amour avec sa partenaire June Carter qui est incarnée par la grande Reese Witherspoon. Pour vous, c'est un modèle de biopic musical, ce Walk the Line?
Moi, j'avais très peur à l'annonce de la sortie de ce film à l'époque. Il avait été commencé du vivant de Johnny Cash. Avec son autorisation, c'est son fils, son dernier fils qui a, je dirais, poursuivi le chantier. J'ai trouvé très réussi, ça tient pour moi en grande partie à l'interprétation de Phoenix, qui est quand même spectaculaire du début à la fin.
C'est lui qui chante,
et il joue divinement ce personnage quand même extrêmement complexe qu'était Johnny Cash, qui était à la fois donc cette histoire d'amour avec June Carter est très bien racontée, cette femme qui l'a sorti des ténèbres, des amphétamines et des addictions, etc. qui l'a rapproché de la religion, mais sans pour autant qu'il devienne un born again Christian insupportable. Je trouve que je l'ai revu encore pour avant l'émission et ça marche très bien. Les séquences musicales sont crédibles. Le problème, ce sont les rôles un peu secondaires. Oui. Le Elvis est très raté. Le Roy Orbison aussi. Mais on s'en fiche parce que c'est vraiment l'histoire entre ces deux-là. Moi, j'ai eu la chance de voir Johnny Cash et June Carter en concert à Paris. Au Bataclan, je sais plus en quelle année, en 2000 peut-être. Et ils étaient vraiment comme ça. C'était deux personnes. D'ailleurs, ils sont morts à 6 mois d'intervalle. Oui. C'est vraiment deux personnes qui peuvent pas vivre l'une sans l'autre.
J'ai appris que Phoenix, lui, est entré en clinique à la fin du tournage, marqué par les similitudes avec sa propre vie. C'est vrai que son frère River est mort d'une overdose. Exact. Encore plus, ça s'appelle donc Walk the Line, et je rappelle, si vous voulez le trouver...
20th Century Fox.
Super. DVD. Encore plus récent sur une figure fondamentale de la soul, et bien sûr c'est votre choix Olivier Cachin, son parrain Monsieur Dynamite James Brown dans ce film Get On Up de Ted Taylor. Là encore, enfance cabossée, abandon, abus sexuel, redressement, prison. On peut dire que c'est un biopic, bon il y a les scènes de concert extraordinaires, on peut dire que c'est un biopic ultra psychologique.
Bah oui, c'est-à-dire que en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il a une façon de présenter le film. Alors, déjà, il faut savoir que c'est celui que maintenant tout le monde connaîtra comme la Panthère Noire. Hein, c'est Chadwick Boseman qui avant avait fait que des films assez mineurs, joué dans quelques épisodes des Experts, et qui là incarne dès la première séquence. Là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il est formidable.
Présentez-nous
à la fin.
Présentez-nous la première séquence, parce qu'on va écouter l'extrait. Alors
en fait, il est de dos. Il a 60 ans. C'est juste avant la fameuse séquence de. Des chiottes et du flingue.
Mais c'est celle-là.
Oui, mais juste avant, il rentre dans il est de dos et il est James Brown. C'est-à-dire qu'il, rien que la démarche en quelques secondes, il est James Brown et tout de suite, et le réalisateur a expliqué pourquoi, on va voir cette scène incroyable que tout le monde connaît, enfin ceux qui connaissent la légende de James Brown, où il rentre défoncé au PCP dans une salle de conférence qu'il a louée, qui appartient à lui.
C'est quoi le PCP?
C'est l'Angel Dust, c'est une drogue. C'est l'héroïne, c'est le next step. C'est très très puissant, très addictif, très destructeur. Et bon, et il en consommait de façon immodérée.
Et une femme a utilisé ses toilettes et il arrive et devient fou.
Oh yeah, you gotta take a shit. Now imagine unhitching your pants as you open the door to your master bathroom and you see me, James Brown, just sitting there, taking a break. What would you do? I said, what? Good God. Tell the devil gonna have to get that fixed.
On n'a pas dit quelque chose de très important sur Get On Up, c'est qu'il est coproduit par Mick Jagger.
Eh oui, qui était même présent pour la conférence de presse à New York pour présenter le film.
Et qui avait rencontré James Brown.
Ah bah oui, il a rencontré tout le monde.
Il a rencontré tout le monde. Et ce film Get On Up, on le trouve chez Universal Pictures. Ça va trop vite. Hein. Un hymne au jazz maintenant, Olivier Nuc, une déclaration d'amour même. Et le seul français de toutes vos listes. C'est autour de minuit, 1986, Bertrand Tavernier, le retour à Paris d'un célèbre saxo-ténor, miné par l'alcool et la solitude, qui va retrouver l'inspiration grâce à un fan français qui est François Cluzet. Mais le grand d'origine du film, c'est d'avoir aussi choisi Dexter Gordon.
Voilà, c'est un musicien qui joue un musicien. Effectivement, c'est un film moi que j'ai vu très jeune. C'était les années 80, je crois. Et on sent tout l'amour de Tavernier pour cette musique. Ces atmosphères, c'était à l'époque où Chet Baker était encore en vie, où on avait encore les musiciens de cette génération qui subsistaient avec cette déclaration d'amour à Paris, puisque effectivement, on a quand même accueilli énormément de musiciens de jazz.
Reconstitué dans le film par Alexandre Trenner, faut le dire.
Oui, en plus, c'est très très beau. Moi, j'ai un très beau souvenir, je ne l'ai pas vu depuis assez longtemps.
Et ben, on va vous faire écouter.
J'ai un très beau souvenir de ce film, je trouve très gracieux, avec Cluzet, très touchant. Oui. Enfin, vraiment, c'est une bonne initiation, je trouve. Moi, j'étais ado quand je l'ai vu, et ça m'a donné envie de creuser Lester Young et tous ces gens.
Une belle leçon de jazz.
Écoute, Francis, les orchestres swing s'en tenaient tous au système tonal, aux accords de septième. Et puis il y a eu l'orchestre de Count Basie. J'ai entendu Lester Young. Il avait l'air de tomber du ciel. parce qu'il jouait toutes les notes colorées en sixte et en neuvième. Et en septième des dominantes. Tu vois, comme Debussy et Ravel. Et puis Charlie Parker est arrivé. Et il a commencé à développer et il est passé de l'accord de onzième, de treizième et aux quintes diminuées. Heureusement, j'allais déjà dans la même direction. On ne décide pas un beau jour de cueillir un style comme sur un arbre. L'arbre est en toi, il pousse naturellement.
Autour de minuit, disponible chez Warner Bros. En DVD. Là, il va y avoir un choc thermique. Le hip-hop, votre spécialité, Olivier Cachin, incarné dans ce film 8 Mile de Curtis Hanson par Eminem. La vie de son héros, lui et pas lui, à Détroit en 65 entre banlieue blanche et quartier noir, le long de cette ligne de démarcation, le 8 Mile Road, justement. C'est un film très authentique.
Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on dit souvent que pour arriver à l'authenticité, il faut mentir. Et là, on est au cœur de ça. Le personnage, c'est B-Rabbit, qui est un rappeur blanc, qui au début du film est littéralement en train de vomir dans les chiottes d'un club minable où il y a des battles, des open mic, comme on dit, c'est-à-dire où les gens viennent improviser, se défier l'un l'autre. Et il est tellement terrorisé qu'il n'arrive pas à parler. Et parce que c'est le seul blanc dans un monde de noirs. Le rap est une musique viscéralement noire, ce qui ne veut pas dire qu'elle est interdite aux blancs, mais elle est la musique noire de, contemporaine depuis une quarantaine d'années. Et dans tout le film, on va voir l'évolution de ce personnage qui n'est pas Eminem, mais qui est Eminem. Oui. Parce que comme lui, c'est un white trash, comme lui, il a grandi dans la pauvreté. Bon, là, il a Kim Basinger comme maman, ça c'est le choix du roi. Ouais. Mais et c'était cette façon de raconter sa vraie vie sans être lui-même, ça lui donne une liberté. Et on en arrive à ce climax qui va fermer le film, puisque cette dernière séquence, c'est une battle contre son grand ennemi, et il va trouver l'idée géniale pour le battre, puisque c'est lui qui va ouvrir, normalement c'est chacun une minute, et il va balancer tous les dossiers qu'il a sur lui-même, et puis après il va dire, mais toi en face, toi tu t'appelles Clarence, ça c'est un beau nom, et t'as été à l'école, et t'as tes deux parents, ça c'est de la chance, et il va le détruire.
Préparez-vous, on y va.
Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up. Look, look. Now while he stands tough, notice that this man did not have his hands up. This free world's got you gassed up. Now who's afraid of the big bad wolf? One, two, three into the four. One pop, two pop, three pop, four. Four pop, three pop, two pop, one. Your pop, he's pop, no pop, none. This guy ain't no motherfucking MC. I know everything he's about to say against me. I am white, I am a fucking punk. I do live in a trailer with my mom. My boy Future is an Uncle Tom. I do got a dumb friend named Cheddar Bob who shoots himself in his leg with his own gun. I did get jumped by all six of you chumps.
Olivier Cachin, j'aime beaucoup ce qu'il a dit Eminem à Curtis Hanson. Il dit, tu ne peux pas écrire un film pire que ma vie, car je ne veux surtout pas que des gens aient pitié de moi. Et tu ne peux pas non plus écrire un film plus positif que ma vie, car les gens ne pourront pas comprendre d'où vient ma musique. Si ça, c'est pas authentique quand même.
Tout est authentique, tout est vrai, mais tout est faux. C'est ça qui est beau.
Alors, 8 Mile, on le trouve chez Universal Pictures. Oui. Ce musicien-là, Brian Wilson, schizo, est incarné par deux acteurs extraordinaires, Paul Dano et John Cusack, c'est votre choix Olivier Nuc, dans ce film remarquable, Love and Mercy, premier et seul film d'ailleurs réalisé pour l'instant par le producteur Bill Pollard. Ce producteur qui a notamment produit 12 Years of Slave de Steve McQueen, Les Maliks ou Into the Wild au passage. Brian Wilson, c'était le génie des Beach Boys, un film concentré sur deux périodes, 66, la sortie de son 11e album, et aussi la deuxième période, c'était les rapports avec sa femme. Là, un gros pathos également, père tyrannique et brutal, la maladie et un psychiatre abusif.
C'est affreux cette histoire, quand on regarde, et en même temps, cette renaissance, le film s'attache, effectivement, Cusack est très touchant dans Brian Wilson, Quadra, qui... qui essaie de se débarrasser de cet horrible Dr. Landy qui a vraiment pris le pouvoir sur sa vie et qui l'a écarté de tout et qui s'est mis coproducteur des disques, etc. Donc, et ce film est très fort dans le sens où il raconte vraiment l'artiste aux prises avec les affres de la créativité, empêché à 21 ans par son groupe.
Beach Boys.
Les Beach Boys qui sont finalement, qui ne sont pas à la hauteur de son génie,
non.
Qui ne comprennent pas l'enjeu des compositions qu'il tisse, qui sont sublimes. On parle de Good Vibrations, on parle de God Only Knows, on parle de quelques-unes des plus belles chansons de l'histoire de la musique. Et le même, 25 ans après, qui essaie de revenir et qui est empêché par effectivement un type tyrannique qui essaie de tirer la couverture à lui. Sur le papier, ça donne pas tellement envie, ça fait effectivement un peu pathos, mais c'est interprété avec beaucoup de grâce par deux immenses comédiens. Et je trouve que la réalisation avec cette histoire d'amour en filigrane, qui est assez touchante, de Brian Wilson, qui est un gros bébé de 45 ans, qui va acheter une voiture et qui tombe amoureux de la vendeuse. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer dans la vie. Il est vraiment comme ça. C'est une espèce de gros bébé malhabile. Mais dès qu'il est derrière un piano, c'est absolument... On fond complètement. Et je trouve que les scènes de studio
sont très réussies.
L'enregistrement de Pet Sounds avec Al Blaine, le batteur qui vient de mourir d'ailleurs, et d'autres qui sont joués par des comédiens. On est vraiment là, c'est filmé de manière extrêmement fine.
C'est dur de filmer l'inspiration.
C'est très compliqué.
C'est très compliqué. On va écouter une scène justement de Brian Wilson seul pendant que les autres sont allés surfer, heureusement. On écoute.
Chorus will harmonize over and over at the end.
Voilà, ça s'appelle Love and Mercy, vous le trouvez chez ARP
Sélection. Absolument.
C'était noir, mais là, c'est une nouvelle couleur, plus noire que le noir. De la Californie, donc, à l'Angleterre, Mossad, Macclesfield, banlieue de Manchester. C'est votre choix, Olivier Cachin. Et d'ailleurs, c'est le nôtre, c'est celui de tous, je pense. La vie de Ian Curtis, leader du groupe de rock Joy Division, base du mouvement New Wave. Contrôle du photographe Anton Corbijn. Un groupe à part dans l'histoire du rock, sombre, glacial et même désespéré, comme lui, Ian Curtis. Un film en noir et blanc sublime.
Un film, oui, un film de légende pour un groupe de légende qui, d'ailleurs, faut le rappeler, à l'époque, ne vendait que très peu de disques. Ian Curtis s'est suicidé à l'aube de la tournée américaine qui aurait pu être déclencheur d'une vraie carrière internationale. Alors, pour moi, c'est un film important d'abord parce que c'est la ligne de basse de She's Lost Control a changé ma vie. C'est un truc que j'ai découvert, que je me suis pris en plein plexus. C'est un groupe assez extraordinaire dont le deuxième album est sorti à titre posthume. Et le film, c'était un film impossible parce que comment raconter une histoire aussi sombre? C'est un groupe qui a tout perdu avec la mort de son chanteur et qui s'est réinventé après en devenant New Order.
Oui.
C'est une musique, effectivement. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle le post-punk. Ça doit beaucoup en termes de son à Martin Hannett, hein, qui est le producteur. Parce qu'il faut savoir que le groupe se voyait comme un groupe punk à la Sex Pistols. Et en écoutant ce premier album, dont on entend des larges extraits dans le film, ils se sont estimés trahis. Il aura fallu des années pour comprendre que ce ce qu'avait fait ce producteur, c'est les faire entrer dans l'histoire. Et Sam Riley qui joue, qui est Ian Curtis, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est pas tellement qu'il lui ressemble, encore qu'il lui ressemble pas mal, c'est que il a vraiment réussi à s'accaparer le rôle, et c'est pas facile parce que crise d'épilepsie, jeu de scène complètement hallucinant. Moi, je les ai vus en concert une fois, c'était quelque chose de, c'était mystique.
Je revoyais le film hier, il y a une souffrance dans sa danse sur scène. C'est une, ce type était une blessure.
Ben, moi, la seule fois que je les ai vus en concert, c'était en première partie des Stranglers au Rainbow à Londres. Et il m'a fallu des années pour comprendre ce qui s'est passé. À la fin du concert, il y a cette danse et il fonce dans la batterie donc de Stephen Morris. Il est emporté par Eddie Roddy et il m'a fallu des années, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, pour comprendre que c'était pas un jeu de scène, c'était en fait une crise d'épilepsie due au stroboscope. Parce qu'ils avaient demandé aux Stranglers de pas mettre des lumières trop clignotantes parce que le chanteur était épileptique. Ils ont dit oui, rien à foutre, ils l'ont fait quand même. Et il a eu une crise d'épilepsie sur scène. Donc c'était quelqu'un qui était habité par sa musique, dont les paroles étaient effectivement d'une sombritude extrémissime.
Oui, à un moment, la journaliste belge qu'il rencontre fait un début d'interview et leur dit « Est-ce que vous trouvez que la musique est belle ?» Et il répond « Non, la musique ne peut ne pas être belle aussi. »
Elle est puissante, elle est profonde, mais elle est au tréfonds des enfers, quoi. C'est quelque chose de d'unique. C'est des sensations absolument extrêmes.
Vous avez choisi l'extrait du suicide que vous allez commenter en direct, Olivier.
Ouais, là, il y a pas de spoiler, c'est la fin.
So this is permanence.
So this is permanence, aussi le titre dans une compilation de Joy Division, L'amour brisé, la fin qui s'approche. Ian Curtis est seul, il vient de regarder La balade de Bruno S., film troublant de Werner Herzog. Il regarde le mur, il regarde le ciel. Le ciel n'a jamais bouché. La mort de l'innocence, la fin des souvenirs. Control, ça fait partie de ces films dont la fin n'est pas une surprise. Pas de cliffhanger, on sait comment ça se termine. Mal. Avec une corde. Au petit matin. Le suicide. Quelques jours avant une tournée qu'ils auraient rendue célèbre. La mort de Joy Division. La mort d'un chanteur. La naissance d'un mythe.
J'aimais beaucoup ce titre de Télérama à l'époque de la sortie qui avait titré « Une étoile est morte » à propos de ce film « Control ». Olivier Nuc, est-ce que « Control » pourrait s'inscrire dans une trilogie noire avec, par exemple, « Sid and Nancy » et « Last Days » ?
Oui, complètement. Complètement. Mais ce que j'avais apprécié dans le film, c'est pas étonnant de la part du grand photographe qui est Corbin, c'est le noir et blanc, la qualité du noir et blanc. Et ces paysages, Manchester, la chambre désolée avec le poster de Bowie, voilà, c'est vraiment la transition
entre
le glam et le punk et la new wave. C'est un concentré, ce sont 10 ans de musique anglaise. Raconté dans ce film, avec après tout ce qui va suivre, qui va être effectivement aujourd'hui, on a été traumatisé par Joy Division et ce film montre bien pourquoi.
Et pour rappeler quand même, pour parler un peu de cinéma en dehors des biopics musicaux, que Anton Corbijn a réalisé d'autres films, pas toujours très réussis, mais un qui est très réussi, qui s'appelle Un homme très recherché, avec l'immense Philip Seymour Hoffman. Control, on le trouve en DVD.
Film distribution.
Oui. Deux acteurs pour incarner Brian Wilson, qui dit mieux. Todd Haynes, qui a convoqué 6 acteurs pour incarner Brian Wilson. Pourquoi je dis ça? Pour incarner, pour incarner Bob Dylan. C'est mieux que Brian Wilson pour deux. Ça s'appelle I Am Not There. Alors, comment faire, effectivement, pour cerner cette icône américaine, Olivier Nuc?
Todd Haynes a été extrêmement intelligent. Je l'avais interviewé à l'époque du film et je lui avais dit, je pense que Dylan va adorer votre film. Parce que Dylan, alors, on est dans l'actualité, puisque vient de sortir le film de Scorsese
sur Dylan,
la tournée 75, qui est un immense film et à la fois un superbe canular.
C'est-à-dire?
Les deux nous ont concocté des fake news.
Ouais.
Qu'ils ont disséminé tout au long du film. Je vais pas tout raconter, mais la plupart des témoignages sont faux, sont joués par des acteurs et certains acteurs jouent des rôles. Enfin, c'est
incroyable.
Voilà, les deux. Donc Dylan adore ça. Dylan a passé sa vie à mentir. C'est le menteur professionnel qui a raconté n'importe quoi quand il est arrivé. Il a raconté qu'il était d'une famille pauvre, qu'il avait grandi sur les routes en prenant des trains avec sa guitare sur le dos. Pas du tout. Et Todd Haynes a compris ça mieux que personne et a compris que raconter les transformations de ce type, qui est à la fois protest singer, qui va devenir chanteur chrétien, qui va ensuite s'aventurer du côté du reggae, du funk, enfin qui suit une carrière absolument dingue, quoi de mieux que de prendre des acteurs différents, notamment une femme.
Et oui, voilà.
Le coup de génie, c'est Cate Blanchett qui incarne à la perfection le Dylan de 65.
La beauté androgyne de Dylan à cette époque-là. Voilà,
Dylan, c'est les Ray-Ban Wayfarer, c'est la première rockstar à porter les lunettes noires, avec autant de grâce.
Ah ouais.
C'est l'inspiration, à la fois c'est entre Rimbaud, le psychédélisme, et pas tellement la politique et le protest singer d'ailleurs.
Ah, Hymn Not There, c'est pas un morceau très connu de Dylan.
Non, par ailleurs, la BO du film était exceptionnelle puisque des groupes d'aujourd'hui reprenaient des chansons de Dylan et c'est vrai que quand on en a marre d'écouter Dylan par Dylan, il reste toujours les reprises de Dylan, donc on s'en sort pas. Moi j'avais trouvé ce film d'une intelligence folle. Il y a Charlotte Gainsbourg aussi qui joue un mix entre plusieurs de ces femmes.
Oui.
Alors là, on n'est pas du tout dans la vérité historique, mais tant mieux. Mille fois bravo, je trouve que ce film est un modèle.
On va écouter Cate Blanchett, justement, interrogée par des journalistes à une conférence de presse.
Why do you think you were booed at your recent appearance in New England?
Well, I figured there's a little boo in all of us.
Yeah. Is it true you no longer sing protest songs?
Who said that?
I didn't say that. I read somewhere that you no longer do the protest thing.
Well, that's all I ever do is protest.
Do you have a message?
Do you?
I mean, are you trying to accomplish anything?
Am I trying to accomplish anything?
Are you trying to change the world or anything?
What, am I trying to change the word, did you say?
You know, are you trying to push your idealism to the people?
No.
Je demandais chez qui on le trouve, ce DVD.
Mais chez qui,
Hymn Not There.
Chez Diafana. Pardon.
On va terminer par une parodie. Alors là, on termine par une parodie de biopic. Un faux doc sur la tournée américaine d'un faux groupe british, Spinal Tap de Rob Reiner. Je vous rappelle que Rob Reiner, c'est quand même l'auteur de Stand By Me, quand Harry rencontre Sally de Misery et de le président et Miss Wade que j'aime beaucoup.
Et oui, de Princess Bride, plein d'autres.
Oui.
C'est un film qui est extraordinaire parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film que toutes les stars du rock et du hard rock ont vu. Et alors, il y en a qui ont pleuré. Parce qu'ils ont dit c'est horrible, je ne pourrais plus faire de musique après ça. Il y en a qui ont dit je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, c'est ma vie. Tout ce qui arrive à ce groupe. Alors c'est Marty Dibergi qui est joué par Rob Reiner lui-même, qui est un documentariste complètement idiot. Hein,
c'est une parodie de Scorsese. D'ailleurs, parodie de Scorsese dans La Dernière Valse.
Oui, et en fait il va interviewer ce groupe Spinal Tap dont Michael McKean est le leader, qui est un grand acteur qu'on a vu dans Better Call Saul, plein de films et de séries. Et il leur arrive les pire chose, c'est-à-dire que c'est un groupe qui va avoir toutes les galères et tout est inspiré de vrais groupes de hard rock, que ça soit Black Sabbath, Led Zeppelin, et notamment cette scène fabuleuse, je crois que c'est celle qu'on va entendre avec le volume.
Non, on va
entend rien. Alors je la décris.
Ouais, voilà.
Il est en train de discuter avec le guitariste dans une pièce où il y a 25 guitares. Il y a tout un truc. Alors il dit celle-là, on peut pas y toucher. Non, mais d'ailleurs je veux pas. Non, on ne peut même pas en parler. Enfin, il est complètement parano. Et à un moment, il montre un ampli. Il dit c'est bizarre. Je regarde l'ampli. Il y a un zoom. Je vois que les volumes vont à 11. Pourquoi? Il dit, tu vois, quand tu joues, t'es à fond, t'es à 10. Qu'est-ce que tu peux faire après? Il dit, je sais pas. Eh ben, exactement, rien. Donc, nous, quand on veut aller plus loin, on met le volume à 11. Comme ça, on a ce plus. Et là, le réalisateur fait, mais en fait, ça serait pareil si c'était le même son à 10. Et là, il y a 10 secondes de silence. Et le mec fait, celui-là va jusqu'à 11. C'est toute l'absurdité. Et ce qui est dingue, c'est que le groupe n'existe pas, mais il a fini par exister tellement le film est devenu culte. Ils ont fait une tournée et il leur est arrivé en vrai tout ce qui est arrivé au groupe en faux dans le film. C'est magnifique, la réalité a rejoint la fiction.
Spinal Tap chez Studio Canal. Et d'ailleurs, en revanche, il y a eu un dernier concert. Ça, c'était avec des vrais musiciens. C'est The Last Waltz. Très, très, très vite, Olivier.
Oui, c'est un film qui m'a fait découvrir énormément de musiciens. C'est le concert d'adieu du band. Donc le groupe qui avait justement accompagné Bob Dylan dans sa révolution électrique en 76 au Winterland. Et en réalité, ce film, c'est la fin d'une époque. C'est 76, c'est justement avant, je dirais qu'il faudrait voir Control juste après. C'est-à-dire que c'est la vieille garde du rock qui célèbre un peu ses adieux. On est en 76, le punk arrive et ils sont tous là. Il y a Dr. John qui vient de partir, Johnny Mitchell, Neil Young, Clapton, Muddy Waters. Enfin, c'est une distribution stupéfiante, réalisation de Scorsese. sublime.
Sinon, on a choisi nos biopics préférés. Et Laurent, c'est quoi vos 5 biopics musicaux préférés?
Mais en tous les cas, moi, j'aimerais mettre en avant peut-être le décalage un petit peu qu'on peut faire en France parfois, avec Barbara, par exemple, de Mathieu Amalric, ou bien encore pire, encore mieux, en tous les cas, pareil, Guy d'Alex Lutz, parce que inventer à ce point-là une sorte de clone de Michel Sardou et Claude François, c'est formidable. Mais à part ça, évidemment, on peut penser à Bird de Clint Eastwood, Last Days de Gus Van Sant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, évidemment, et puis le Tenants. Voilà, ce sont des très beaux. Mais c'est vrai que en France, on a cette spécificité-là. Il vaut mieux quand même qu'on évite Tino Rossi par Claude Lelouch, ouais, ou Charles Trenet par Lisa Azuelos, et on y arrive. Donc c'est bien.
Dans ma liste, moi, j'avais choisi, ben, pas de français, malheureusement, Sid and Nancy d'Alex Cox, que je vous recommande. Love and Mercy, comme vous, Olivier Nuc. Leto, bien sûr, on va en reprendre un peu plus loin. England is Mine, très joli film consacré à Morrissey, mais quand il n'était pas connu, ado, et triste et mélancolique. Et enfin, Sugarman de Malik Bendjelloul, consacré à Sixto Rodriguez. C'est avec lui qu'on va conclure ce plateau avant de parler des sorties. La voix de Sixto qu'on avait rencontré à Paris et un morceau donc de Sugarman.
Je ne pense pas qu'on prend des décisions en sachant où ça vous mènera au final. Les gens ne se marient pas ou ne tombent pas amoureux en pensant que ça finit par un échec. Même chose en musique. Je ne compose pas en pensant que ça fera un carton. Je l'espère, mais ce n'est pas mon but. Je fais de la musique parce que j'aime ça. La musique, enfin, j'aime bien le mot poésie. Et j'aime bien voir ça comme ça.
Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors.
Les sorties de la semaine qui ne sont pas des biopics musicaux, Zombie Child de Bertrand Bonello, Laurent, Haïti 1962, un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. On ne reprochera pas à Bonello l'intelligence, l'acuité de son sujet ni la précision de ses recherches, mais comme l'a d'ailleurs très bien écrit le critique Josué Morel de Criticat.com, Zombie Child, un objet atmosphérique qui se rêverait en grand film hanté. Je suis pas loin de penser la même chose.
Oui, alors on pourrait retenir d'ailleurs la BO du film, hein, comme toujours chez Bonello, qui est absolument brillantissime, mais comme c'est pas le propos réellement du film, on la passera sous silence. Moi, je n'ai pas compris grand-chose, à vrai dire, au propos global de Bonello, comme dans son précédent Nocturama, d'ailleurs, qui m'avait laissé encore plus circonspect et perplexe. La preuve, on est d'ailleurs au centre du film, il y a Patrick Boucheron, l'historien Patrick Boucheron, qui tout d'un coup se met à faire un cours devant des petites élèves du lycée de jeunes filles de la Légion d'honneur. Et puis on le revoit à un autre moment du film donner un examen. On ne comprend, enfin moi je ne comprends pas cette présence, sauf à intellectualiser ce film de façon excessive.
Lune de miel, c'est un premier film signé d'une comédienne qui s'appelle Élise Otzenberger et inspiré d'un épisode de sa vie. Anne et Adam, jeune couple de Parisiens aux origines juives polonaises, partent pour la première fois de leur vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du 75e anniversaire de la destruction de la communauté du village de naissance du grand-père d'Adam. C'est joué par Judith Chemla et Arthur Igual, qu'on aime beaucoup. Partis à la recherche de leurs origines dans un voyage plein de surprises durant lequel ils ne trouveront pas exactement ce qu'ils sont venus chercher, Laurent.
Oui, alors, la question centrale, c'est est-ce qu'on peut faire de l'humour, de la distance, de l'ironie avec la mémoire de la Shoah? Dit comme ça, ça passe ou ça casse, évidemment. Voilà, il faut être certainement extrêmement avisé, affûté pour le faire, et que multiplier les gags douteux, un peu vulgaires, les clichés sur les Polonais alcooliques, etc. Et puis tout d'un coup, faire tomber le film, ou faire monter le film sur l'émotion avec l'évocation d'un cimetière juif vandalisé, il faudrait être très très fort pour réussir ce pari. Je trouve personnellement que Lune de miel n'y arrive pas, et c'est dommage parce que, par exemple, montrer que Cracovie est devenue une sorte de Disneyland de la Shoah, c'est-à-dire c'est une vision abominable, ça aurait dû être le propos central du film. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça.
Charlotte a 15 ans, de Sophie Lorrain. Charlotte pense, je pense que sa vie est foutue, trouve un petit boulot dans un magasin, se laisse prendre au jeu, enchaîne les histoires sans lendemain, mais se fait attraper par le candidaton.
Ouais, alors je préfère le titre original, c'est Charlotte a du fun, c'est plus, mais ça, c'est bien parce que ça montre l'énergie dans laquelle se trouve ce film. C'est son principal atout, c'est-à-dire que pendant sa première partie, il est d'un bavardage féminin sur les hommes extrêmement drôle, enfin féminin, oui, des jeunes filles sur les jeunes hommes, ça c'est très drôle, ça va très vite, c'est plein d'allusions, c'est plein d'allants, c'est plein de joie, c'est plein de vitalité, et malheureusement il y a une sorte de twist qui fait que le personnage principal féminin, cette Charlotte, tout d'un coup un tout petit peu obsédée sexuellement, elle devient abstinente. Alors là, c'est beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup moins drôle, ça va beaucoup moins vite et on se fatigue à ce personnage, et c'est bien dommage.
Le retour de Neil Jordan. Neil Jordan, dans Greta. Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C'est ainsi qu'elle rencontre Greta, Isabelle Huppert, veuve esselée, aussi excentrique que mystérieuse, l'une ne demandant qu'à se faire une amie et l'autre fragilisée par la mort récente de sa mère. Les deux femmes vont se liés d'amitié. Mais Frances n'arrête-t-elle pas trop mordu trop vite à l'hameçon? Il fallait être Huppert pour revêtir un rôle aussi extrême. Elle nous a habitués à ça, une filmographie 5 étoiles de monstres féminins tout à fait passionnante. Celui-ci vient compléter la liste, le palmarès, jouant, moi je trouve qu'elle joue avec autant de bonheur et de complexité la norme bourgeoise et l'étrangeté inquiétante. La mise en scène, elle, adopte les codes du thriller avec pas mal d'ironie et d'humour, malgré un suspense pas vraiment haletant et même prévisible, sauvé in extremis par cette scène finale, témoin du talent qu'avait eu Jordan avant, et notamment dans Mona Lisa.
J'ai lu sous la plume de notre confrère Vincent Ostria dans l'UMA cette définition extraordinaire de Huppert. Il dit « Huppert est un effet spécial à elle toute seule ». Ouais. Vraiment, je trouve que c'est une magnifique définition qui fait que de toute façon, elle sauve le film. Ouais. Elle sauve tous les films dans lesquels elle est parce qu'elle est effectivement un effet spécial, beaucoup moins cher que ceux d'Hollywood quand même, et extraordinaire. C'est-à-dire, elle est fascinante à voir. Vous l'avez dit, dans les rôles de folle, de pianiste et de sadique, on l'a déjà vu. Ben, néanmoins, on la regarde avec fascination.
Cyrano et la petite valise, c'est un documentaire de Marie Frappe. Chaque mardi, semaine après semaine, dans l'atelier théâtre d'Emmaüs, animé par Omblin, comédienne, nous assistons à la transformation des participants, 6, parfois 8, Abîmé par la vie, Laurent.
Oui, c'est le pour moi le beau, le joli documentaire de la semaine, parce que cette façon effectivement de se pencher sur ces 8 personnages en quête d'un rôle sur la scène du théâtre, mais aussi d'un rôle sur la scène de la vie dont ils sont exclus parce qu'ils sont SDF. C'est cet homme et cette femme qui répètent avec tout l'allant qu'ils ont, à la fois le Pinocchio de Pommerat et puis aussi le Cyrano de Bergerac, de Rostand. C'est une vraie leçon de vie, c'est-à-dire effectivement c'est des destins fracassés qui se confrontent à ces écritures, qui eux-mêmes d'ailleurs écrivent, et c'est très beau de les voir, et c'est très émouvant, et c'est très intéressant de les voir ainsi évoluer dans ce qui n'est pas leur élément naturel, et c'est une façon de leur redonner de la dignité.
Et très vite, On se voit, Fatima, là c'est pas un doc, c'est un drame, mais rejoué, c'est-à-dire que ces actrices ont suivi ce pèlerinage et l'ont rejoué derrière. C'est un film de Joao Canijo.
C'est une vraie performance cinématographique, 450 kilomètres en 10 jours par 11 femmes, et on les voit, c'est un peu, on achève bien les pénitentes, quoi, on achève bien les pèlerines, et c'est assez fascinant, ouais, vraiment.
Clôture ce soir du festival Côté Cour à Pantin, à l'intérieur de cette compétition d'un château l'autre d'Emmanuel Mar, un moyen métrage rare, le portrait d'un jeune homme de notre temps ou d'un autre temps, juste avant l'élection présidentielle. Un ton, une forme unique entre réalité et cinéma, une réflexion sur la perte des liens et des repères. Emmanuel Mar part d'une situation et construit son film autour. C'est un film extrêmement étonnant et paraît-il qu'il passera un de ces jours sur Arte.
On espère, parce qu'un auteur a
appel au jury de Pantin. Ce film est extraordinaire.
Magnifique.
On termine avec la sortie d'un film qu'on a tellement aimé. On vous avait reçu à cette occasion, Olivier Nic. C'est L'étau de Cyril Serebrennikov. On écoute un petit extrait, ma scène préférée dans la cabine téléphonique, à rejouer une chanson d'Iggy Pop.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home.
C'est Lou Reed, bien sûr. C'est Lou Reed. Olivier Cachin, samedi prochain, vous présentez le film Les
Doors. Voilà, réédition du film d'Oliver Stone au Gaumont Alésia à Paris à 20h. Ça va être formidable.
Merci beaucoup Olivier Nuc, merci beaucoup
merci
Olivier Cachin.
Deux.
Et bienvenue sur Terre à une certaine Émilou. Voilà, on vous a confié les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Contes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Alicia Vullo et Sonia Leiglen.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Olivier Cachin, j'y étais.
Et moi, Olivier Nuc, j'y étais.